Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
19h30, en temps universel, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce vendredi 20 octobre, Jim Jordan ne se représentera plus pour devenir le speaker de la Chambre des représentants. Il a perdu sa troisième tentative. Dans un discours hier soir, le président Joe Biden appelle les Américains à soutenir Israël et l'Ukraine. Au Tchad, Amnesty réclame justice un an après une manifestation réprimée dans le sang. Au Niger, les avocats du président renversé Mohamed Bazoum rejettent les accusations des militaires sur sa tentative d'évasion. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Les Républicains ont renoncé à désigner Jim Jordan comme candidat à la tête de la Chambre des représentants lors d'un vote à bulletin secret. L'élu d'Ohio a échoué pour la troisième fois à remporter les voix nécessaires pour occuper le perchoir. Le point avec Nanit Talani.
Nous devons nous réunir et déterminer qui sera notre porte-parole, a déclaré Jim Jordan à la presse, tout en confirmant qu'il mettait un terme à sa candidature à ce poste. Il a ajouté qu'il va travailler dur pour aider la personne qui sera choisie. Son échec a aggravé les divisions au sein du Parti républicain. Malgré le soutien de l'ancien président Donald Trump, M. Jordan a été battu par 25 collègues de son propre camp qui lui ont refusé le perchoir pour la troisième fois en 4 jours. Les législateurs quittent le Capitole pour le week-end. Lundi, ils vont organiser un forum des candidats pour choisir un nouveau porte-drapeau. Déjà dimanche, plusieurs candidats devront être annoncés. Depuis le 3 octobre, Kevin McCarthy a été démis de ses fonctions de speaker et aucun autre républicain n'a été en mesure de réunir les 217 voix pour le remplacer. C'est l'une des pires crises institutionnelles que Washington ait connue depuis des décennies.
Privé de tout au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, les Gazaouis assiégés et bombardés attendent désespérément l'entrée des premiers convois d'aide internationale, une question de vie ou de mort selon les Nations Unies. Le point avec Jacques Aristide.
Depuis le terminal de Rafah en Égypte, l'unique ouverture sur Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé au passage rapide de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien. Israël se prépare à une offensive terrestre à Gaza après l'attaque la plus meurtrière de ses 75 ans d'histoire. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a rendu visite aux troupes massées près de l'enclave palestinienne, les exhortant à se battre comme des lions. Les craintes d'un embrasement régional mobilisent la diplomatie internationale et les États-Unis ont déployé 2 porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader l'Iran ou le Hezbollah libanais, tous deux alliés du Hamas, de s'impliquer dans le conflit. L'Égypte sera hôte demain d'un sommet pour la paix. La colère gronde toujours aussi dans les pays arabes où des dizaines de milliers de personnes manifestent pour soutenir les Palestiniens et fustiger un soutien occidental à Israël.
L'aide internationale attendue par les Palestiniens à Gaza s'accumule près de la frontière avec l'Égypte au 14e jour de la guerre entre Israël et le Hamas. Elle doit pouvoir entrer dans la bande de Gaza demain samedi, a déclaré le responsable des situations d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths. Ce vendredi, des blocs de béton installés par les Égyptiens après les bombardements d'Israël sur cette frontière avec Gaza ont été enlevés, a indiqué une source de sécurité égyptienne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Tchad, les familles des victimes de la répression d'une manifestation contre la prolongation du pouvoir militaire en place qui a fait plus de 100 morts il y a un an attendent toujours justice, déplore Amnesty International. Les précisions de John Lyndon.
Le 20 octobre 2022, policiers et militaires ont ouvert le feu sur des jeunes manifestants qui protestaient contre la prolongation de 2 ans d'une transition dirigée par le général Mohamed Idriss Déby Itno. Il a été proclamé en avril 2021 chef de l'État par l'armée à la mort de son père. Les forces de sécurité ont répondu en tirant à balles réelles sur les manifestants, tuant et blessant de nombreuses personnes, écrit Amnesty dans un communiqué marquant cet anniversaire. Il est important que les autorités tchadiennes respectent leur engagement en faveur de la justice, écrit encore Amnesty. Le pouvoir a reconnu la mort d'une cinquantaine de personnes, mais au moins 128 ont péri, selon une commission nationale de défense et des droits humains. Hier, le pouvoir a assuré que le 20 octobre 2022, les manifestants ont sauvagement tué 6 membres des forces de sécurité, dont 3 à N'Djamena.
Les avocats du président renversé Mohamed Bazoum rejettent les accusations des militaires au pouvoir au Niger sur son éventuelle tentative d'évasion. Claire Morin-Gibourg.
Nous rejetons énergiquement ces accusations montées de toutes pièces contre le président Bazoum, a déclaré Mohamed Sédou Diagne, coordinateur d'un collectif d'avocats du président renversé. Il a également affirmé que M. Bazoum, sa femme et son fils sont détenus au secret. Maître Diagne a également précisé que le médecin s'est vu refuser l'accès alors qu'il apportait de la nourriture à la famille ce matin. M. Bazoum était jusque-là séquestré dans sa résidence présidentielle de Niamey depuis le coup d'État du 26 juillet. Hier soir, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a affirmé que Mohamed Bazoum a tenté de s'évader avec sa famille et d'autres personnes en voulant emprunter en périphérie de Niamey des hélicoptères appartenant à une puissance étrangère en direction du Nigeria. Selon le SNSP, les auteurs et certains de leurs complices ont été arrêtés.
Au Sénégal, des milliers de personnes ont signé une pétition en ligne pour réclamer la reprise de la desserte maritime entre Dakar et Ziguinchor, principale ville de Casamance, au sud, suspendue depuis plus de 4 mois en raison des tensions politiques liées à l'opposant Ousmane Sonko. Toujours au Sénégal, les autorités ont annoncé vouloir acquérir des biens appartenant à l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui doivent être mis aux enchères en France pour préserver la mémoire et le patrimoine de son ex-président. Ces biens, vendus aux enchères samedi à Caen, sont formés de bijoux et de décorations militaires de Léopold Sédar Senghor et divers autres objets. En République démocratique du Congo, la commission électorale a déclaré recevables les 24 candidatures pour la présidentielle du 20 décembre. Parmi les candidatures provisoires reçues par la CENI, celle du président sortant, Félix Tshisekedi, aussi le docteur Denis Mukwege, Moïse Katumbi, Martin Fayolou, candidat malheureux en 2018. La liste définitive sera publiée le 18 novembre, à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Au Kenya, 4 femmes sont décédées dans une bousculade nocturne aux abords d'un stade à Kericho, dans l'ouest du pays, où le président William Ruto a présidé quelques heures plus tard les célébrations de la fête du jour des héros de l'indépendance. Et dans l'actualité internationale, la Chine annonce des restrictions supplémentaires à ses exportations de graphite, un composant essentiel à la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. La Chine avait déjà annoncé en juillet que certains produits contenant du gallium et du germanium feraient face à des contrôles d'exportation plus stricts. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, et son homologue sud-coréen, Chung Wong-kun, ont signé à Abidjan un protocole d'accord pour un projet de 10,3 millions de dollars dans la riziculture, qui sera mis en œuvre dans le district de Yamoussoukro avant d'être étendu dans le pays. L'objectif est de fournir 5500 tonnes de semences de riz par an. Le Togo et le Bénin ont signé un protocole d'accord pour la mise en œuvre de l'itinérance sur les réseaux de communication en 2024. Le consommateur togolais en roaming au Bénin sera soumis au même tarif que le consommateur du Bénin. Pendant les 30 premiers jours de son séjour, les réceptions d'appels et de messages sont gratuites. Les consommateurs du Bénin bénéficieront de mêmes avantages lorsqu'ils seront en voyage au Togo. Lors du dernier Conseil des ministres au Burkina Faso, le gouvernement a décidé de réduire de 5 à 2 le nombre de cartes SIM par abonné d'un même opérateur. La ministre de la Transition digitale des postes et des communications électroniques, Aminata Zerbo-Sabané, a précisé que la mesure vise à lutter contre l'insécurité et le détournement des services de communication.
Place au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Dili.
Eric, parlons du Ballon d'Or. Une section pour Messi et pour les autres, s'amuse Pep Guardiola.
Le patron des Citizens a choisi l'humour pour répondre ce vendredi à une question sur le Ballon d'Or, refusant de donner son favori entre Lionel Messi, septuple Ballon d'Or qu'il a entraîné au FC Barcelone entre 2008 et 2012, et Erling Haaland, qu'il dirige actuellement à Manchester City. Le Ballon d'Or devait avoir deux sections, une pour Messi et après on regarde pour les autres, a-t-il dit. Donc Haaland devrait gagner, oui, il a gagné le triplé et marqué 50 millions de buts. Pep Guardiola a redit son admiration pour Messi. La pire saison de Messi, ce serait la meilleure pour les autres. Les deux le méritent, donc qu'est-ce que je peux dire, a-t-il conclu, à propos du duel entre l'Argentin et Haaland pour le Ballon d'Or, remis le 30 octobre à Paris. Haaland a inscrit 52 buts en 53 matchs pour sa première saison avec Manchester City, dont 12 en 11 rencontres de Ligue des Champions que le club anglais a remporté pour la première fois en juin. Messi a beaucoup moins brillé avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, mais il a soulevé la Coupe du Monde en décembre 2022 après avoir inscrit un doublé et réussi son tir au but en finale contre la France. Les deux joueurs figurent parmi les 30 nommés pour succéder au Français Karim Benzema, lauréat en 2022.
Et en Angleterre, Pochettino avait conseillé à Arteta de ne pas devenir entraîneur.
Mauricio Pochettino a été une des personnes les plus influentes dans la carrière de Mikel Arteta, a déclaré ce vendredi l'entraîneur d'Arsenal à la veille du match contre Chelsea, admettant toutefois ne pas avoir suivi un de ses conseils. Ne deviens pas entraîneur, c'est trop dur. Les deux anciens joueurs qui se retrouvent demain samedi à Stamford Bridge ont évolué ensemble au Paris Saint-Germain au début des années 2000. En France, le défenseur argentin a pris sous son aide le jeune milieu espagnol envoyé par le Barça en prêt pour s'aguerrir. Poche a joué un rôle important dans mon succès à Paris car il s'est vraiment occupé de moi, m'a donné beaucoup de confiance et m'a prodigué des conseils. Il a été un modèle pour moi depuis ce moment-là, indique Arteta.
JO 2024, Kipchoge veut écrire l'histoire en remportant une troisième médaille d'or.
Le Kenyan Eliud Kipchoge, double champion olympique en titre du marathon, a déclaré ce vendredi vouloir écrire l'histoire en décrochant une troisième médaille d'or d'affilée au JO 2024 de Paris. « Je vais faire tout mon possible pour me donner les moyens de gagner une troisième fois et marquer l'histoire », a dit Kipchoge lors d'une conférence de presse en Espagne où il doit recevoir un prix.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Dili Diko de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Au Tchad, le bilan de la répression des manifestations du 20 octobre 2022 fait toujours débat. Les familles des victimes et les organisateurs de ces manifestations commémorent cette triste journée, désignée par beaucoup de Tchadiens comme étant le jeudi noir. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Un an de douleur, un an de pleurs, un an de blessures, un an de souffrance, mais sans doute dans ce drame de l'espoir sous-jacent.
L'opposant Sixé Masra, président du parti Les Transformateurs, principal acteur des événements du 20 octobre, est depuis en exil. Il a été contraint d'ajourner son retour au pays qui était annoncé pour le 18 octobre. Toutefois, il invite les Tchadiens, du moins ceux qui le peuvent, par patriotisme et par humanité, d'honorer en silence la mémoire de ce qu'il appelle désormais des martyrs de la justice et de l'égalité. Madame Linda, épouse du journaliste Narcisse Oredi, tué devant sa concession le 20 octobre.
Après le décès de mon épouse, souffre avec mon fils. Il peut prendre la charge pour l'enfant. Lui, il n'est pas sorti pour manifester. Lui, il est là, devant la porte seulement, comme ça, il a eu la balle. Il faut dire la justice.
Témoignage de service, Ngardjelay, un autre journaliste rescapé du bain de Kourouturo, une prison de haute sécurité destinée à garder les terroristes et autres bandits de grand chemin. Contraint de vivre lui aussi en exil, il se rappelle encore de ses compagnons décédés.
Ça fait 39 corps qu'on a eu à enterrer juste derrière la prison. Les cellules étaient petites, petites. Et on mettait 32, 35 personnes. On chiait dedans, on urinait dedans dans les cellules. Vous voyez, c'était vraiment horrible.
Pour la société civile, ce massacre jamais égalé des populations civiles sorties, mais les mains nues pour réclamer justice et équité ne doit pas rester impuni.
Un an après, les survivants et les victimes n'ont pas fait leur deuil. Elles attendent toujours une justice qui tarde à venir.
L'avocate Maître Delphine Kemelum Djiraibi, membre du collectif des associations pour la défense des droits de l'homme.
Qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants? Pourquoi les forces de défense et de sécurité ont fait usage d'une force excessive? Pourquoi la lumière n'est-elle pas faite sur les personnes portées disparues? Pourquoi les hommes qui ont fait usage des armes de guerre ne sont-ils pas appréhendés et jugés?
Une répression qui a fait 73 morts selon le gouvernement, mais la CNDH avance un chiffre de 128 personnes tuées. Les organisateurs parlent quant à eux de plus de 300 morts. Mais les Tchadiens attendent le rapport de la CIAC piloté par le facilitateur, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Mais un an après, ce rapport n'est toujours pas publié. Aziz Mohamed Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Le chef de l'État de la RDC facilitateur est venu à N'Djamena. Des discussions continuent et bien évidemment, ce sera à la CEAC de répondre où est-ce qu'on en est exactement. La condition que le gouvernement pose, c'est la sincérité du dialogue. Et le gouvernement mettra tout en œuvre pour éviter qu'il y ait un autre 20 octobre.
Le parti Les Transformateurs commémore cette journée, mais plus de 70 militants de ce parti croupissent depuis bientôt 2 semaines en prison sans être présentés à un juge. André Kodmajingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 19h30 TU dans l'Amérique et vous. L'Amérique et vous, explorez les liens sociopolitiques et culturels entre l'Amérique et l'Afrique. L'Amérique et vous, l'émission qui réunit les deux continents dans un échange vibrant d'idées et de perspectives. Participez à la conversation sur les moyens de renforcer les liens entre l'Afrique et l'Amérique. Rejoignez-nous dans l'Amérique et vous, votre dose hebdomadaire d'échanges culturels et des discussions informatives sur l'Afrique et les États-Unis. L'Amérique et vous, c'est chaque vendredi sur VOA Afrique.
La République du Congo organise du 26 au 28 octobre prochain le sommet des trois bassins forestiers tropicaux et de la biodiversité du monde. Ce sommet vise à réunir les pays de l'Amazonie, du Bornéo, Mékong et du bassin du Congo pour mener ensemble les batailles face à la crise climatique. Sur place, le gouvernement congolais s'active à peaufiner les préparatifs du sommet, alors que la société civile se regroupe pour traiter des questions qui touchent les communautés. Notre correspondant Arsène Séverin.
À Brazzaville, on joue les derniers jours. Les consultations nationales sur ce sommet viennent de se terminer. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, qui est l'actrice principale dans l'organisation de ce sommet, il faut garder à l'esprit l'objectif majeur des assises de Brazzaville.
Le sommet des trois bassins, des écosystèmes, de biodiversité et des forêts tropicales consistera à établir et à installer progressivement une gouvernance que nous voulons sud-sud, parce que nous collaborons avec les pays du Nord qui nous sont en reste de la planète au sein donc de nos trois écosystèmes mondiaux sur lesquels repose donc, vous l'avez compris, la pérennité donc de l'humanité. Et les trois bassins devraient bénéficier également de la mobilisation financière existante et future annoncée lors des différentes COP et même au-delà des COP.
Intéressé au sommet des trois bassins forestiers mondiaux, les communautés espèrent avoir leur mot à dire à cette occasion. C'est le cas des populations autochtones, gardiennes de la forêt, qui se disent toujours très peu écoutées. Paul Makita est de la communauté autochtone de la Lekoumou dans le sud-ouest du Congo-Brazzaville.
Et quand il fait des explorations de forêt, nous, on ne bénéficie pas. Et à la fin, quand ces compagnies-là repartent, nous restons dans des difficultés. C'est-à-dire, nous n'arrivons plus d'aller récolter là où on avait l'habitude de récolter nos chenilles. Voilà, pendant ce sommet-là, nous, maintenant, on a décidé que nous allons maintenant dire toutes les difficultés que nous avons eues à raconter.
La société civile est également debout. Elle soulève les questions pertinentes telles que celles liées à la préservation des tourbières. Megzan Fortuné Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme.
Les questions de financement du climat et de la biodiversité et les questions de marché de carbone, on ne peut pas en parler pour le bassin du Congo sans évoquer les tourbières qui portent plus de tonnes de carbone que toutes les forêts du bassin du Congo. Et donc, nous, société civile, on est parti pour réitérer l'intérêt de la communauté internationale de faire le maximum pour qu'il y ait de l'argent pour préserver les écosystèmes de tourbières.
Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement, rappelle aux autorités l'intérêt de la question des communautés forestières.
Les multinationales, les chefs d'État et de gouvernement sont beaucoup plus orientés vers le business, mais mettent souvent de côté la préoccupation majeure qui nous concerne, celle des droits des communautés. Et donc c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention de nos décideurs.
À moins d'une semaine de la tenue du sommet, Brazzaville s'embellit et quelques invités commencent déjà à débarquer. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a lancé un appel direct au peuple américain pour qu'il continue à financer l'Ukraine et Israël dans le cadre des efforts de guerre des deux pays. Le chef de l'exécutif américain a formulé cette demande lors d'un discours hier soir dans le bureau ovale. Patsy Widakuswara, chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, fait le point. Le récit est de Jacques Aristide.
Des Palestiniens déplacés s'abritent dans des tentes dans le sud de Gaza, alors qu'Israël poursuit ses frappes aériennes, dont une qui a transformé en ruine une mosquée dans la ville de Deir al-Bala. C'est dans ce contexte que le président Joe Biden a livré jeudi soir à son adresse à la nation pour demander davantage d'argent pour Israël, de même que pour l'Ukraine.
Le Hamas et Poutine représentent des menaces différentes, mais ils ont ceci en commun. Ils veulent tous deux complètement anéantir une démocratie voisine.
Israël a bombardé Gaza, tuant environ 3000 personnes et faisant plus d'un million de déplacés en représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier, qui a fait 1400 morts. Pour le président Biden, tout en soutenant Israël, l'Amérique doit également respecter son engagement envers l'Ukraine qui affronte l'invasion russe.
L'histoire nous a appris que lorsque les terroristes ne payent pas le prix de leur terreur, lorsque les dictateurs ne payent pas le prix de leur agression, ils provoquent davantage de chaos, de morts et de destructions.
L'enveloppe d'aide pour Israël et l'Ukraine doit toutefois passer par le Congrès américain, dont la Chambre des représentants est privée de la majorité de ses pouvoirs, y compris l'adoption de lois depuis l'éviction au début de ce mois d'octobre de Kevin McCarthy du poste de président de cette institution, une destitution inédite survenue en raison de divisions entre les élus républicains. Pendant ce temps, des personnes ont manifesté jeudi au Capitole, qui abrite le Congrès américain, afin d'appeler à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. D'après un sondage Reuters Ipsos datant du 16 octobre, 41% des personnes interrogées sont d'avis que les États-Unis doivent soutenir la position d'Israël.
Le leadership américain est ce qui unit le monde. Les alliances américaines sont ce qui assure notre sécurité, nous, l'Amérique.
Des rassemblements parfois violents contre Israël et les États-Unis ont éclaté dans diverses capitales du monde. De nombreux manifestants voient l'État hébreu comme une force d'occupation qui continue d'annexer le territoire palestinien soutenu par les États-Unis, alors même que l'administration américaine fustige l'annexion de certaines parties de l'Ukraine par la Russie.
L'Égypte organise demain, samedi, au Caire, un sommet pour la paix au Proche-Orient, alors que la guerre entre le Hamas et Israël a déjà fait des milliers de morts. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé, depuis le point de passage de Rafah en Égypte, au transit rapide de l'aide humanitaire vers Gaza. Eric Manirakiza a joint au Caire Amr el-Shoubaki, ancien député et membre du Forum Alternative pour les études politiques en Égypte.
La position de l'Égypte, dès les débuts, il a insisté pour faire entrer toutes les aides humanitaires à Gaza. Bien sûr, Israël a bloqué les barrages de Rafah depuis l'affrontement, depuis 7 octobre jusqu'à maintenant. L'Égypte aussi et l'opinion publique est contre qu'on attaque des civils de deux côtés. Mais les problèmes actuels qu'on voit, que l'opinion publique internationale, ou plutôt les leaders des pays aux États-Unis ou des pays occidentaux, regarde uniquement pour les civils israéliens. C'est-à-dire on n'a pas vraiment assez de fermeture contre les attaques contre les civils palestiniens. Donc la question que des civils palestiniens pèse maintenant très lourd sur la position égyptienne et surtout sur l'opinion publique.
Une conférence internationale organisée par l'Égypte demain samedi. D'après vous, qu'est-ce que cette conférence peut faire pour changer la donne?
À mon avis, c'est très difficile, pour être franc avec vous, c'est très difficile que cette conférence peut changer la donne. Parce que les participants viennent de pays arabes ou des pays amis avec la cause palestinienne ou qui soutiennent le droit du peuple palestinien, comme la Turquie, la Grèce, historiquement, et un pays méditerranéen, il n'est pas loin des Palestiniens. Donc, et plus les responsables politiques des Saoudiens, des Émirats et des autres pays arabes. Jusqu'à maintenant, ça peut envoyer des messages pour la communauté internationale, pour les dirigeants politiques européennes et américains, pour essayer de faire des pressions sur Israël. J'espère que cette conférence...
Amr el-Shoubaki, ancien député et membre du Forum Alternative pour les études politiques en Égypte. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Lionel Gaïma, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.